Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 7 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Sidoudia. Tout d'abord les titres. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque des djihadistes présumés fait une dizaine de morts dans le nord du pays. Au Mali, attaque armée à Gao contre un convoi de la MINUSMA, la mission de l'ONU. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko promet le chaos si sa candidature à la présidentielle de 2024 est empêchée. Au Gabon, Jean Boniface Asselé, candidat à la présidentielle. La RDC et l'Afrique du Sud envisagent un accord de sécurité. Des centaines de migrants africains chassés de Sfax en situation de détresse dans une zone désertique du sud de la Tunisie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Nouvelle attaque de djihadistes présumés au Burkina Faso, une dizaine de civils ont été tués mercredi dans une attaque de groupes armés dans le nord du pays. Ce genre d'attaque, souvent meurtrière, se multiplie, Yacouba Ouedraogo.
Hier jeudi, des hommes armés sont revenus dans le village de Sampelga pour incendier des maisons, piller des boutiques et emporter du bétail, a indiqué un habitant, ajoutant que de nombreuses personnes ont voulu fuir mais craignent d'être interceptées sur la route. La veille mercredi, des hommes armés sont arrivés en nombre dans le même village, à une quarantaine de kilomètres de Dori, dans la région du Sahel. Ils ont commencé à tirer sur les gens, a rapporté un responsable local des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des supplétifs de l'armée. Entre le 10 et le 25 juillet, au moins 6 personnes ont été tuées sur l'axe Sampelga-Dori par des hommes armés qui tentent d'imposer un blocus sur la localité. Mercredi, une quinzaine de civils ont été tués lors d'une autre attaque dans l'est du pays. Le 26 juillet, au moins 71 personnes, dont 31 soldats et 40 supplétifs civils de l'armée, ont été tués dans 3 attaques de djihadistes présumés, dont les 2 plus meurtrières ont eu lieu dans la province du Centre-Nord.
Au Mali, des individus armés non identifiés ont attaqué hier à Gao un convoi logistique de la MINUSMA. Selon une source au sein de la mission de l'ONU, le convoi se déplaçait de la localité de Labezanga à Gao. Un camion-citerne civil s'est renversé lors de l'attaque qui a blessé un civil malien, selon un bilan provisoire donné par la même source. Le 30 juin, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme à la mission de maintien de la paix des casques bleus, un retrait réclamé par Bamako et qui se déroulera sur 6 mois jusqu'à la fin de l'année 2023. La MINUSMA, avec environ 12 000 soldats déployés depuis 2013, est une cible privilégiée des djihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'État. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a promis hier des élections dans un chaos indescriptible si sa candidature à la présidentielle de 2024 est empêchée. C'était lors de sa première prise de parole depuis que le président Macky Sall a annoncé lundi qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature, prévient-il dans un entretien sur la chaîne France 24. Monsieur Sonko, plus farouche opposant au président Sall, a été condamné il y a 1 mois à 2 ans de prison ferme dans une affaire de meurtre. Cette condamnation le rend, en l'état actuel, inéligible. Elle a engendré, début juin, les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, faisant 16 morts selon les autorités et une trentaine selon l'opposition. Au Gabon, à moins de 2 mois des élections générales, Jean Boniface Asselé annonce sa candidature à la présidentielle. Le président du Centre des libéraux réformateurs, membre de la majorité présidentielle, dénonce ce qu'il appelle la spoliation de l'État par l'entourage du président Bongo, affaibli depuis 5 ans par la maladie. ancien baron du régime des Bongo, Jean-Boniface Asselé et oncle maternel du chef de l'État, nous dit notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
L'heure est grave, notre pays traverse l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire. C'est par ces propos que le général de police à la retraite Jean-Boniface Asselé dénonce la gestion des affaires publiques par l'entourage de son neveu, le président Ali Bongo Ondimba.
Profitant de cette période de fragilité du président de la République, que des individus véreux et connus de tous ont choisi le moment de prendre sournoisement le contrôle de notre pays.
Il ajoute que les images qui défilent montrant un président hyperactif et présent sur tous les terrains ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Il a donc décidé de prendre ses responsabilités.
J'ai décidé, à mon âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême pour l'élection présidentielle du mois d'août prochain.
Plusieurs fois ministre sous Bongo père et fils, Jean-Boniface Asselé, 74 ans, revendique une position de centriste sur l'échiquier politique. Sa candidature va selon lui permettre au président gabonais, toujours malade, de se soigner et retrouver son autonomie personnelle. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré hier qu'il envisageait de signer un accord de sécurité avec l'Afrique du Sud, alors que les milices continuent d'occuper des pans entiers de l'Est turbulent du Congo. Rosine Mounezero.
Lors d'une conférence de presse avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans la capitale Kinshasa, M. Tshisekedi a expliqué que l'accord pourrait prendre la forme d'un pacte de défense mutuelle. Le président congolais a cité le pacte de défense mutuelle de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, comme modèle potentiel, sans entrer dans les détails. M. Ramaphosa, pour sa part, a promis de continuer à aider la RDC à lutter contre l'insécurité et la pauvreté. Nous sommes disposés, prêts et toujours prêts à soutenir la RDC comme nous l'avons fait dans le passé et nous continuerons à le faire, a-t-il déclaré. Nous allons également renforcer cette relation en concluant un accord bilatéral sur la sécurité et la défense, a ajouté le dirigeant sud-africain. Des groupes armés sévissent dans une grande partie de l'est de la RDC depuis 3 décennies. La RDC a accusé à plusieurs reprises son voisin, le Rwanda, de soutenir le M23 dirigé par les Tutsis, ce que Kigali nie. Jeudi, M. Tshisekedi a déclaré qu'il n'était pas opposé au dialogue pour mettre fin au conflit, mais qu'il refusait de parler aux marionnettes du M23, a-t-il dit.
Des centaines de migrants africains en situation de détresse jeudi dans une zone désertique dans le sud de la Tunisie, après avoir été chassés de la ville de Sfax, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Un déferlement de violence alimenté par des appels à la vengeance s'est abattu mardi et mercredi sur les migrants originaires d'Afrique subsaharienne à Sfax, après que l'un d'entre eux, présenté comme Camerounais par les autorités, a tué un habitant de la ville lors d'une rixe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'intelligence artificielle avance à grands pas, mais de nombreuses questions sont encore sans réponse, a averti l'ONU à l'ouverture hier d'une conférence de 2 jours à laquelle participent des robots humanoïdes. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'ONU a réuni à Genève plus de 3000 experts, dirigeants et représentants d'entreprises pour discuter de la nécessité d'élaborer des règles garantissant que l'intelligence artificielle soit utilisée à des fins positives pour l'humanité, comme la lutte contre la faim ou le développement durable. Sans cela, l'intelligence artificielle risque de nous faire vivre un véritable cauchemar, selon la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, Dorine Bogdan-Martin, en référence au logiciel ChatGPT. Elle a décrit un monde avec des millions d'emplois en danger et en proie à une désinformation rampante, des troubles sociaux, une instabilité géopolitique et des disparités économiques à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. Des centaines d'universitaires, patrons et personnalités ont demandé un moratoire de 6 mois sur le développement de systèmes d'intelligence artificielle plus puissants. Les robots humanoïdes réunis à Genève n'ont pas répondu à ces questions, mais peut-être le feront-ils ce vendredi lors d'une conférence de presse inédite à laquelle 9 robots humanoïdes doivent participer.
Un soldat israélien a été tué par balle jeudi près d'une colonie de peuplement en Cisjordanie occupée, ont annoncé les services d'urgence. Une attaque revendiquée par le mouvement islamiste du Hamas qui parle de réponse à l'opération israélienne de 2 jours menée au cœur du camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Sénégal, les ministères de l'Environnement et des Finances organisent ce vendredi à Dakar une rencontre sur l'énergie verte avec la coopération technique allemande. Selon le président Macky Sall, 2,5 milliards d'euros sont nécessaires pour atteindre 40% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Le pays a engagé un partenariat avec l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada. Le Rwanda referme ce vendredi à Kigali la 23e Assemblée Générale des Actionnaires de l'Agence Africaine d'Assurance du Commerce. Repenser le risque est le thème de cette année sur les risques liés au commerce et à l'investissement en Afrique. Le Rwanda est l'un des 7 pays qui ont créé l'ATI en 2001 aux côtés du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la Zambie et du Malawi. Le Botswana accueillera le sommet des affaires États-Unis-Afrique du 11 au 14 juillet à Gaborone en partenariat avec le Conseil des entreprises sur l'Afrique. Un millier de participants des secteurs publics et privés américains et africains, y compris des dirigeants aux fonctionnaires, chefs d'entreprise et investisseurs, sont attendus. Cette rencontre est un suivi du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington en décembre 2022.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Guinée et le Mali se disputent la 3e place de la CAN des moins de 23 ans ce soir.
Oui, coup d'envoi, 17h temps universel. Pour rappel, la Guinée et le Mali ont été battus en demi-finale respectivement par l'Égypte et le Maroc qui s'affrontent demain samedi en finale. Les deux finalistes sont qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
Kylian Mbappé poursuit sa visite au Cameroun natal de son père.
Arrivé hier jeudi à Yaoundé, l'attaquant star du Paris Saint-Germain va visiter ce vendredi l'école d'enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives dans la banlieue de la capitale, puis il va participer à un match de basket Mbappé contre Joachim. Dans l'après-midi, il participera à un match de football contre le FC Vente d'Etoundi, club de 2e division camerounaise présidé par Yannick Noah. Demain samedi à Douala, dans le sud, Kylian Mbappé doit visiter une école, puis non loin le village de Djebalé, celui de son père Wilfried Mbappé, né à Douala mais qui a quitté très tôt le Cameroun pour la France où il a été entraîneur de football.
La FIFPro, syndicat mondial des joueurs de football, s'attaque aux agents véreux.
C'est à travers une campagne à laquelle participe Didier Drogba, l'une des stars du ballon rond. L'objectif est de sensibiliser les jeunes Africains au danger des faux agents.
Yes, you play well.
Un film d'animation et une figure bien connue du football mondial pour sensibiliser sur les agents véreux de joueurs. Le scénario est parfait et attire. Par l'intermédiaire de sa fondation, l'ancien international ivoirien Didier Drogba s'est joint au syndicat mondial des joueurs de football, FIFPro, et à l'Organisation internationale du travail pour une campagne sur les risques liés aux agents de joueurs qui promettent gloire et fortune aux enfants.
Pas si vite. Êtes-vous sûr de pouvoir faire confiance à cette personne?
La FIFPro a récemment mené une enquête auprès de 263 joueurs de 7 pays africains et découvert que plus de 70% d'entre eux avaient été contactés par quelqu'un qui leur avait promis de les aider à changer de club. Le plus souvent, les joueurs approchés se sont vus proposer un essai ou un contrat avec un club. 56% d'entre eux n'ont pas obtenu l'essai qui leur avait été promis, tandis que 44% n'ont pas signé le contrat qu'ils s'attendaient à signer.
Beaucoup de jeunes se disent « je cherche un agent pour me trouver un club », mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce sont vos performances qui attirent l'attention des clubs ou des bons agents et non l'inverse.
L'ancien attaquant de Chelsea a déclaré que les jeunes joueurs en particulier sont en danger en raison de leur empressement à trouver un agent. Les nouvelles règles de la FIFA entreront en vigueur le 1er octobre. Elles exigeront que tous les agents de footballeurs possèdent une licence de la FIFA pour laquelle ils devront passer un examen.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, début mardi à Ouagadougou, d'un salon international CISDEF, où Synergie, Sûreté, Sécurité et Défense, en pleine lutte contre le terrorisme, ce salon réunit tous les corps militaires et paramilitaires et les agences de sécurité du privé. C'est un espace pour ces différents acteurs de faire des expositions, d'échanger et de réfléchir sur les enjeux de la lutte contre l'insécurité. À la découverte de ce salon inédit avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré, à Ouagadougou.
Nous sommes ici à la salle d'exposition du Salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense. Les professionnels de la sécurité et de la défense sont présents. Les dernières technologies, des solutions pour un système de sécurité et de défense sont proposées. Des accessoires, de l'équipement militaire aussi sont exposés. Hamadou Ndiko, PDG de la société Civils AI. Exposant.
Nous faisons des équipements de protection individuelle, en ce qui concerne les unités, les unités spéciales, les commandements sur le terrain, au niveau aussi des campements, les camps, les équipements sur le terrain de front, les matériels roulants. Nous travaillons aussi à innover et là nous avons des solutions que nous proposons. Les solutions, c'est des systèmes de surveillance du territoire, système de la maîtrise de l'information au niveau aérien et terrestre.
Aristide Kambo, responsable de la société Africa Distribution, une centrale d'achat internationale.
Aujourd'hui, nous proposons essentiellement deux solutions au service de nos armées.
Exposant.
La solution radiophonique et téléphone par satellite et aussi les drones. La solution radiotéléphonique permet à nos armées, lorsqu'elles se déploient en terrain ennemi ou pour la reconquête du territoire, de pouvoir garder le contact avec leur base. Les drones permettent de faire la surveillance sur les territoires où nous n'avons pas de présence militaire.
Catherine Delmas, dirigeante de la société Technique Export.
Nous avons déjà fourni des boulangeries mobiles de campagne, des cuisines mobiles de campagne pour les militaires sur le terrain qui font du pain et de la cuisine en toute autonomie et sur tous les terrains.
Les initiateurs de ce salon ambitionnent développer l'industrie nationale de la défense et de la sécurité. Yassine Zouré, promoteur du salon Synergie Sûreté, Sécurité et Défense.
Ça permet à nos forces de défense et de sécurité, le plus grand nombre, je dis bien le plus grand nombre, de pouvoir découvrir des équipements, des fournisseurs internationaux, nationaux. Parce que derrière cela, nous souhaitons vraiment stimuler le développement de l'industrie nationale de la défense et de la sécurité. Vous allez retrouver aussi l'espace des jeunes innovateurs. Là, vraiment, je vais dire que c'est le cœur même de l'activité parce que vous allez retrouver des jeunes, des universitaires qui sont en train de plancher dans le hackathon que nous avons organisé et qui réfléchissent sur des solutions de sécurité et défense.
Au moins une quinzaine de sociétés africaines, européennes et asiatiques prennent part à ce salon. On peut citer entre autres des participants venus du Nigeria, du Mali, de l'Égypte, du Togo, de la France et de la Chine. Les salons s'achèvent aujourd'hui. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Pendant les grandes vacances au Sénégal, les jeunes bénéficiant souvent d'une plus grande liberté se précipitent vers les plages. Mais à Guédéouaï, dans la banlieue de Dakar, ce baigner comporte souvent des risques. Les mesures de surveillance, de restriction ou d'interdiction sont quasiment inexistantes, ce qui entraîne une augmentation du nombre de décès par noyade. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, donne un aperçu de la situation.
C'est avec une insouciance déconcertante que cet enfant, âgé d'une dizaine d'années, se jette à l'eau sans aucune surveillance. Comme lui, des centaines d'enfants sont venus se baigner. Sous le regard médusé d'Aziz Barre, ce riverain s'émeut du nombre de jeunes qui fréquentent cette plage de Guéliouaï, qui est pourtant réputée très dangereuse.
Comme il fait chaud durant cette période, nous voyons les jeunes de la banlieue déferler sur cette plage par centaines. Ce sont des enfants qui ne sont pas riverains de la plage et qui viennent souvent sans être forcément accompagnés par des adultes et sans savoir nager. Ils viennent se baigner sans connaître la plage ni les zones dangereuses.
À la question de savoir s'il y a des maîtres nageurs, Aziz Barre est catégorique.
Non, il n'y a pas de maître nageur ni de personnel de surveillance qualifié. C'est chacun pour soi. Des fois, nous essayons de rappeler les jeunes à l'ordre, mais ils te disent carrément que tu n'as aucune autorité qui te permet de les limiter. Certains vont même jusqu'à te manquer de respect. Malgré cela, des fois, nous les riverains, nous nous mobilisons pour empêcher certains enfants de bas âge d'entrer dans l'eau. Mais à part ça, il n'y a aucune sécurité, aucun maître nageur.
De son côté, Pape Ndiaye constate une absence totale des forces de l'ordre qui empêchait les baignades dans certaines zones dangereuses. Pour lui, la situation actuelle du pays fait que certaines choses passent au second plan.
L'État est occupé par la question du troisième mandat qui aspire à toutes les ressources. Sur cette plage, il y avait des campagnes de prévention et même des tableaux d'avertissement. Mais cette année, rien de tout ça n'a été fait. Déjà, avec ces mesures préventives, il y avait beaucoup de morts. Imaginez maintenant ce qui peut se passer sur cette plage avec tout ce monde et sans aucune sécurité.
Les enfants et adolescents ont une grande liberté pendant les vacances scolaires. En ces temps de chaleur, beaucoup se dirigent vers des plages souvent interdites à la baignade pour passer du bon temps. Et sur les côtes sénégalaises, particulièrement au nord de Dakar, entre Yoff et Guéliouaï, ce sont des drames à répétition chaque année. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Les habitants du camp de réfugiés de Djenin, en Cisjordanie occupée, rentrent chez eux après un raid de 2 jours mené par les forces israéliennes qui a coûté la vie à 13 Palestiniens et à un soldat israélien. Israël a retiré ses troupes, mais affirme qu'il mènera d'autres opérations si nécessaires pour éradiquer le terrorisme. Les autorités sanitaires palestiniennes accusent l'État hébreu d'avoir ciblé les hôpitaux pendant ce raid. Cindy Sain de la VOA fait le point. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Les habitants du camp de réfugiés de Djenin ont constaté des dégâts considérables lorsqu'ils sont sortis de leurs abris ou de leurs maisons mercredi, après la plus grande opération militaire israélienne depuis près de 20 ans en Cisjordanie occupée. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que les forces israéliennes visaient des terroristes.
Les combattants israéliens sont arrivés à des dizaines d'endroits où les terroristes de différentes organisations de Jenin avaient installé une usine de production de terreur avec charges, munitions, divers types d'armes. À partir de cet endroit, ils ont semé la mort dans toute la Cisjordanie et au-delà de la ligne verte.
Un expert a déclaré à la VOA que Jenin était depuis longtemps un bastion des groupes militants palestiniens. Brian Katulis est vice-président du volet politique de l'Institut du Moyen-Orient. Il s'est entretenu avec la VOA via Zoom.
Il s'agit de milices qui ne sont pas affiliées à certaines des principales factions palestiniennes et qui représentaient une grave menace pour l'ordre public. Non seulement une menace terroriste pour les Israéliens, mais aussi un défi pour les civils palestiniens ordinaires. Et cette action des forces de défense israéliennes, je pense, a été perçue par certains comme une réponse à des menaces tout à fait légitimes.
La ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaila, accuse les forces de défense israéliennes d'avoir attaqué des hôpitaux lors du raid.
Depuis le début de leur raid, les forces d'occupation ont attaqué l'hôpital gouvernemental de Jenin, blessant grièvement des citoyens qui s'y trouvaient. Elles ont aussi tiré à plusieurs reprises sur l'hôpital Al-Amal, blessant un citoyen qui s'y trouvait. Cet après-midi, elles ont pris d'assaut la cour de l'hôpital spécialisé Ibn Sina. avec des véhicules blindés. Elles ont délibérément bloqué les ambulances et leur équipage à Jenin et les ont empêchés d'atteindre les blessés. Le monde entier a vu les forces d'occupation tirer sur les ambulances et leur équipage et les empêcher de soigner les blessés.
L'ONG Refugees International et d'autres groupes de défense des droits de l'homme ont appelé l'armée israélienne et les groupes militants palestiniens à cesser l'escalade de la violence et toute attaque contre des civils. Ils ont déclaré que l'utilisation par Israël de forces aériennes contre le camp de réfugiés près de Jenin, densément peuplé, est à la fois troublante et disproportionnée.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est arrivée hier à Pékin pour une visite de 4 jours destinée à redéfinir les relations entre les 2 premières puissances économiques du monde. Cette visite intervient quelques semaines après celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a convenu avec le président Xi Jinping que la rivalité entre les 2 puissances ne devait pas tourner au conflit. Pour les enjeux de cette visite, Jean-Roger Bion a joint l'analyste Kamissa Camara de l'Institut américain pour la paix.
Il s'agit d'abord des 2 premières puissances économiques mondiales qui se concertent parce qu'elles ont des intérêts à préserver en commun. Et effectivement, il y a une rivalité dans le fond qui ne dit pas son nom, mais cette rivalité, que ce soit sur le plan économique, militaire ou politique, doit s'aplatir. Et effectivement, ces visites-là s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations entre ces 2 premières puissances économiques mondiales et surtout l'apaisement des tensions diplomatique qui existe.
Alors, des tensions, vous l'avez dit, persistent à tous les niveaux entre Pékin et Washington, les États-Unis reprochant au niveau économique, par exemple, des pratiques déloyales. Quelle serait la bonne approche pour Janet Yellen pour vaincre sans périr?
Taïwan étant un partenaire privilégié des États-Unis, même si les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, c'est relations qui sont plutôt économiques et non officielles sont quand même assez fortes. Et donc, il s'agit, je pense, pour les États-Unis d'insister sur la question diplomatique pour ensuite résoudre ces problèmes économiques de fond. Je pense que ces visites que Anthony Blinken et Janet Yellen viennent de conduire vers Pékin ne vont pas résoudre du jour au lendemain les tensions entre les deux pays, mais elles serviront sans doute à montrer la bonne foi des États-Unis à travailler de pair avec la Chine pour ensemble rivaliser, mais sur des termes assez justes et équitables entre les deux pays.
Ce ballet diplomatique à Pékin, on le présume, prépare une rencontre entre les présidents Xi Jinping et Joe Biden. Est-ce qu'au-delà de la rivalité entre les 2 puissances, il est possible de trouver un point d'accord pour éviter un déraillement dommageable pour tous?
Je pense qu'il est de l'intérêt et de la Chine et des États-Unis de trouver un point d'entente. Je pense qu'il est très facile d'oublier que la Chine et les États-Unis sont 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc sur le plan mondial, on a vraiment affaire à 2 éléphants qui se battent. Et donc, il est dans l'intérêt de ces 2 éléphants-là de trouver un terrain d'entente, de trouver un accord. Et encore une fois, c'est vraiment dans l'intérêt de ces 2 pays-là de trouver un accord et d'aplanir leur rivalité.
L'analyste Kamissa Camara de l'Institut américain pour la paix. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segudia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gahima. À la console, Bob Bass. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
diffusée partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.